Cascodeur Podcast, épisode 102. Culture de communauté et dépossession de processus. Enregistré le 28 avril 2014.
Et bienvenue au Cascodeur épisode 102. Nous sommes le 28 avril 2014 et on a quelques problèmes techniques, on va dire ça. Donc juste en liste, Arnaud a découvert que la nuit Free redémarrait ses DS LAM ou je sais pas quoi, et du coup ça fout la zouille. Mais ça, c'est le plus petit des problèmes. Vincent a lutté avec dans sa nouvelle maison avec Free pour avoir internet. Ouais. Donc là, il a un truc qui est minimaliste mais qui marche.
3 semaines de lutte.
Voilà. Antonio, en plus de péter les immeubles autour de lui, n'a plus Free depuis avant Devox, donc c'est pareil, ça commence à dater.
Bientôt la fibre.
Voilà. Donc il est sur Free Wi-Fi, on va croiser les droits du réseau pour avoir ça. Et moi, je sais pas si c'est mon Mac ou ma box ou etc, mais les canaux Wi-Fi chient pas mal, et donc... Moi qui suis censé être le truc stable, en fait, c'est la merde aussi.
Ah oui. Tu es notre truc stable, Emmanuel, sache-le.
Voilà. Merci. Et mon NAS vient de me dire que un de mes disques durs que j'ai acheté il y a genre un mois a cramé déjà, donc je suis hyper content.
Ça, c'est bien dommage.
Ouais. Et après, tu te dis, bah, c'est le NAS, parce que il marchait, puis le NAS, je le redémarre, et là, il fait bip, 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 bip.
C'est ça.
Je me dis, c'est pas possible un truc pareil. Et en fait, je pense que c'est effectivement le disque dur. J'ai essayé de le sortir, de le remettre, ça a rien changé.
Faut le changer vite fait. Si t'as acheté les deux en même temps, bon, même si là c'est très court, là, si ça fait qu'un mois, c'est quand même
rare. Ouais, c'est bizarre.
Enfin, ça peut arriver, hein, juste une mauvaise création, enfin une mauvaise facturation. Mais bon, à première vue, t'as intérêt quand même à le changer rapidement, parce que si t'as le deuxième qui meurt, bah.
Ouais. Alors j'en ai commandé deux, parce que de toute façon j'avais mis des petits disques et deux gros disques de petits disques, donc j'en ai deux gros qui arrivent supplémentaires. Ouais. Donc au mieux ça me fera plus de place, au pire je pourrais remplacer le deuxième nouveau.
Et dire qu'avec ce prix-là, tu passais à l'offre pro de Dropbox et t'avais plus de soucis.
Oui, enfin bref, je partageais avec la NSA tout ça, enfin il y a d'autres mais cela dit, pour uploader 3 ou 4 teras, faut quand même se lever, hein.
C'est ça le problème aujourd'hui, hein. Ça reste le débit réseau qu'on a chez nous, parce que c'est bien gentil, ouais, tous les services sur le net, mais quand on parle de telle volumétrie, que ce soit chez Dropbox ou tout le concurrent, enfin derrière faut les sortir, hein, même avec une ligne qui fonctionne, enfin sauf ceux, les Parisiens, la Parigos qui vont avoir la fibre, etc., ces gens-là, mais bon, on leur parle pas en général à ces gens-là.
Vive la fibre,
mais
vive
voilà,
Paris.
Mais à part ça, effectivement, enfin moi je vois, c'est pareil, hein, je fais des backups en dehors de chez moi, ils mettent un certain temps à sortir, hein, les backups. Hein.
Ouais. Enfin. Ah oui, un autre truc, faites attention quand vous achetez sur Amazon, souvent c'est des boîtes qui sont à l'étranger et donc qui font de l'import. Et donc là, mon disque, qui est un Western Digital, je suis pas sûr d'être sous garantie en France. Donc, à savoir, quand votre vendeur est c'est une boîte qui passe par Amazon en termes de marketplace, voilà. Donc je vais devoir poser la question, mais ça paraît pas évident que je puisse le faire.
Mais t'auras la garantie constructeur. Dans ce cas-là.
Bah, c'est là-dessus que je suis allé directement vers le constructeur et il me dit, ah, viens, il est bizarre votre numéro de série, pour un parisien. Donc voilà. Enfin, je suis pas parisien, en l'occurrence. Mais... En tout cas, je suis pas Bastille Intramuros, comme disait Antonio. Bon, on va y aller. Alors, premièrement, un petit retour des Vox. Alors, on va pas faire un retour des Vox, mais on va pointer des liens qui font un retour sur des Vox. Il y a un premier lien qui est je connais pas son vrai nom, mais 433G, donc il s'appelle Kaelinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglingl parfois, et donc il explique le temps qu'il y a mis, l'excitation, le boulot, ce qu'il y a appris, et du coup le peu de présentation qu'il a pu faire vu qu'il préparait. Un truc qu'on sait pas trop, mais les présentateurs qui en général ils prennent ça au sérieux, et du coup ils voient pas beaucoup les Vox, hein. ils viennent gratuitement, mais il y a quand même des contreparties.
C'est 4 en 3G, c'est Philippe Charrière, si je me trompe pas, voilà, qui est derrière ce compte-là. Et donc, c'est lui qui a fait la c'était quoi? C'était un TIA ou un Quickie?
Un Tools in Action sur Golo.
Tools in Action sur Golo, ouais.
C'est ça. Et les performances web avec Jeff Mori et Rémi, Nicolas, bref, plein de gens. Voilà, donc ben vous pouvez aller voir ce site. Un autre qui est un retour d'un nouveau participant. Et donc ça c'est intéressant. Je crois que Antonio, quand tu avais fait lever les mains aux gens pour savoir qui était nouveau, il y avait quand même un certain nombre de gens. Hein, je sais plus, au moins 10%, je pense.
Oh, même plus que ça. Plus que ça. C'était bluffant. L'année dernière, pareil, il y avait bien 30% de la salle des petits jeunes. Donc c'est toujours bien. Moi, ce que je suis en train de faire depuis DevOps, c'est que je suis en train de rédiger un blog où j'agrège les mille et un blogs, photos, podcasts, vidéos de DevOps. J'espère le mettre en ligne d'ici quelques jours. J'en louperai certains, donc je compte sur vous pour nous tweeter ça ou nous envoyer un mail. Donc l'idée, c'est qu'on va se faire un blog avec tous ces liens-là, même ceux qui n'ont pas du tout aimé DevOps. Hein. Nous, on est hyper open. On est vachement sur votre feedback. C'est pour ça aussi qu'on a fait une enquête de satisfaction. Il y a des choses où...
Et elle est pas longue, hein, ça vous prend littéralement 3 minutes.
Oui. Ce coup-ci, on a fait un truc assez court. Peut-être trop, même à mon goût. Mais l'idée, c'est d'essayer d'améliorer ce qui est améliorable. Il y a des choses où on pourra pas faire de miracle, comme le Wi-Fi pour tout le monde. Mais on regarde tous les blogs, là, écrits à droite, à gauche, et ça me donne plein de petites idées en plus. Donc c'est très très bien, bloguer sur DevOps, et nous on agrégera tout ça sur notre site. Voilà, même si c'est pour dire du mal, on est open.
Ouais, d'ailleurs donc Xavier a dit du bien et du mal. Et moi ce que j'aime bien dans ces blogs, c'est aussi, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir, c'est pas pour vous faire rager ou etc, mais c'est pour, vous pouvez avoir la liste des conférences que les gens ont bien aimées, et donc vous les mettez ça dans un petit coin dans des notes, et puis quand parlez les releases, ben, vous pouvez dire tiens... Lui, il pense comme moi, ça l'avait intéressé, donc je vais aller voir cette présentation.
Cette année, ça sera un peu plus rapide apparemment. On a externalisé tout le processing des 160 vidéos ou 180 vidéos. Ah non, parce qu'on filme pas les quickies. Enfin bon, bref, 140 ou 150. Donc ça sera dans Parlaise dans 2 ou 3 semaines a priori. On vous tiendra au courant. Vous pouvez bien sûr suivre le Twitter DevOpsFR. Ou aller sur www.devox.fr.
Et un autre truc dans le blog de Xavier, c'est qu'il parlait du... qu'on appelle ça, du programme papier. Alors, je suis vachement biaisé, parce que c'est Caroline qui a pas mal travaillé dessus aussi, mais c'est marrant. Donc, il y en a qui aiment et il y en a qui aiment pas du tout. C'était marrant. En tout cas, il y en a qui parlaient que c'était une version un peu luxe. Je crois que l'idée, c'est que ça soit autofinançable. Donc, il y a des encarts publicitaires. Et l'idée, c'est que le programme papier, il s'autofinance. Donc, ça fait pas augmenter le prix des places d'Evox,
des remarques. Alors, DevOx Belgique a eu un guide papier pendant une dizaine d'années. Ils en font plus que depuis deux, trois ans, je crois. Le feedback de DevOx Belgique, c'était bien, mais c'était du boulot, le ROI est peut-être pas celui que on attend. Nous, on a testé cette année. C'est vrai que le guide était bien, était beau, le contenu était chouette. Les boîtes peuvent mettre de la pub aussi, donc c'est plutôt pas mal. Et comme dit Emmanuel, le but du jeu, c'est que le guide, il s'autofinance. C'était pas vraiment le cas cette année, mais presque. Donc on va voir si on continuera ou pas. Nous on aime bien le support, mais peut-être pas parce qu'on est vieux. après le papier, bon, on avait des apps aussi, pas super mises à jour tout le temps, donc c'est compliqué en fait. Le papier fige un agenda qui bouge quelques jours avant parce qu'il y a toujours un speaker qui peut pas. Et les apps, bah nous on n'a pas une app officielle et elles sont plus ou moins mises à jour, elles sont plus ou moins bonnes, donc c'est toujours un petit peu le bazar, mais c'est le bazar pour 3-4 talks parce que grosso modo l'agenda a bougé sur les 15 derniers jours de 2 ou 3 talks, donc c'était vraiment minime. Après c'est est-ce que le contenu du guide plaît, mais les feedbacks de toute façon c'est une question qu'on a posée sur notre enquête, Mais pour l'instant, les gens sont plutôt j'aime bien. Donc, ce qui me fait dire que la population d'Evox
est vieillie. Et du coup, ils avaient leurs lunettes, ils levaient les lunettes pour pouvoir lire de près. Ensuite, ils remettaient les lunettes.
Les Google Glass, oui.
Non, mais...
Vieux,
mais... Double foyer. La population d'Evox, c'est une population avec des lunettes à double foyer. Et le dernier point, c'est qu'il a trouvé certaines choses assez inégales en termes de qualité. Il a dit, je suis sorti de certaines conférences. Donc voilà. Et malheureusement, l'enquête de satisfaction, elle est très haut niveau, mais je pense que vous allez utiliser les boîtes de Xebia, pour savoir les choses qui ont marché, les choses qui ont un peu moins marché, je pense.
Oui, cette année, Xebia a eu une idée un petit peu folle, c'était de mettre un boîtier à chaque sortie de salle, et les gens badgeaient et votaient. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec cette information. Après, pour les Devox 2015, 16, 17 et 18, on va pas faire de miracle. Je vous avouerai que déjà, Devox et du bénévolat, c'est un boulot monstrueux. Si en plus, il faudrait qu'on voit les slides de tous les speakers, qu'on leur demande de venir sur Paris, qu'ils répètent, etc., etc. Donc ça, on ne le fera jamais. Donc des confs inégales, il y en aura tout le temps. Moi, ce que j'imagine et ce que j'imaginais de plus en plus là, c'était que le speaker dise mon talk, il est plutôt au niveau débutant, expert, machin. Ce qui me plairait aussi, c'est que le speaker, lorsqu'il décrive le talk, il dise moi c'est plutôt des slides, moi c'est plutôt du code, ou c'est plutôt des slides avec du code, ou c'est plutôt du... Voilà, pour que les gens se disent tiens, je vais voir cette conférence. Il me dit qu'il y aura 80% de code, 20% de slides, et que c'est niveau expert, j'y vais ou pas. Après, si à l'instant T, le talk est pas super bon, on peut pas faire grand-chose. Sachez que c'est des êtres humains qui parlent, et là, je vous parle aussi avec...
Voilà, on peut faire quelque chose, du coup.
et là, je vous parle aussi avec ma casquette de speaker. Et un être humain, c'est faillible pour mille et une raisons. Moi, je me souviens que l'année dernière, en novembre, je suis allé à Codeur en Seine. J'étais hyper malade. Je crois que c'était le pire talk de toute ma vie. Et ça, on en aura tout le temps. Les gens, on le traque. Les gens sont pas bien. Après, il y a celui qui prépare pas. Bon, d'accord, soit, mais il y en a peu. Et puis, il y a celui qui est pas bon. Mais voilà... Donc on peut pas faire grand chose. Moi je voulais juste c'était mettre un peu plus de donner un peu plus d'infos et que le speaker lorsqu'il crée le talk il donne quelques métriques en plus et puis après le jour J écoutez comme disait Emmanuel vous avez quelqu'un qui vient parfois de loin il est pas payé je le répète on ne paye pas nos speakers à Devox. Et c'est un être humain en plus, pas de bol, il est faillible. Peut-être que dans 10 ans, Devox France, ça sera que des robots Nao, mais pas pour l'instant.
Ouais, parce que pour l'instant, les tests Codray et Claude ont fait, le robot Nao, il parle qu'une fois après crash. Donc, bon, on va passer aux news, autre que Devox. On va commencer par les langages. Et il y a un blog, vous vous rappelez, David Gageot, il fait un blog par jour, en tout cas en semaine, et puis hors jour férié, enfin bref. Mais il fait quand même pas mal de blogs. Et là, il a fait un blog sur les noms des paramètres en Java 8. Et donc, l'API de réflexion vous permet de récupérer les noms des paramètres en Java, ce qui n'était pas possible avant. Et ce qui est intéressant dans son blog, et ce que je ne savais pas, c'est que par défaut, le Java, en fait, ne va pas lire ses paramètres quand il charge la classe. Et du coup, vous allez avoir les valeurs qu'on a d'habitude, c'est-à-dire arg 0, arg 1, arg 2, etc. Il faut utiliser une fonction un truc au démarrage de la VM qui fait dash, je sais pas quoi. Et donc, c'est hyper décevant. Est-ce que c'était si coûteux en termes de perf de rajouter ça activé par défaut et que les autres puissent le désactiver si vraiment ils ont un problème de perf là-dessus. Donc c'est un petit peu décevant parce que du coup ça veut dire que c'est une fonction qui va très peu être utilisée. C'est un peu comme les assertions en Java quoi. C'est le truc c'est super mais comme c'est pas activé par défaut au final très peu de gens l'utilisent. Que vous en pensez vous?
Quel est l'intérêt déjà de récupérer les paramètres? C'est pour les.
T'as les noms en fait. Du coup, tu peux faire. Tu vois, t'as des gens qui travaillent sur les noms des méthodes pour créer des requêtes. Donc là, les noms des paramètres peuvent être utiles. Pareil pour les retours d'erreurs. Par exemple, nous, quand on fait de la validation dans Hibernate Validator, on a un truc qui te permet de donner les noms des paramètres. Et ça te permet de dire owner ID est incorrect versus arg 0 de find owner est incorrect.
Ouais, j'imagine que c'est un problème de stockage, de place de stockage principalement, non?
Je sais pas, parce que c'est activable, donc c'est pas non plus.
Oui, mais c'est comme les informations de debug, tu peux les avoir ou pas les avoir et ça te prend plus de place et si tu ouais. si tu, les actives, tu compiles avec.
Qui compile en enlevant le debug pour aller plus vite? Pas moi. Hein. Nous, toutes nos librairies, elles sont compilées avec les infos debug et comme ça, tout le monde peut les utiliser. Et quand t'as une stack trace en prod, c'est quand même utile.
Je sais pas. Faudrait voir quel est le surcoût. Je sais pas.
42.
Ouais, moi, je suis un peu comme Emmanuel. Quand on valide, on se retrouve avec des arcs 0, arc 1, arc 2, arc 3. C'est hyper pénible, surtout lorsqu'on affiche ça sur une page web. C'est pas super beau. Et effectivement, moi, je suis un peu comme toi, un peu déçu en me disant, flûte, encore un truc qui passe à la trappe et on l'utilisera pas, quoi.
Ouais, ce serait peut-être mieux finalement d'avoir par défaut et pour ceux qui veulent optimiser, avoir l'option, quoi.
Ouais. Donc ensuite, il y a, alors c'est JavaScript cette fois. Il y a un monsieur qui a écrit une entrée, You have ruined JavaScript. Alors je l'ai lu il y a un certain temps, je pense qu'il y en a ici qui l'ont lu plus récemment, on va dire. Mais en tout cas, c'est assez marrant parce que, donc il dit, ouais, JavaScript avant, c'était bien, chacun mettait un petit bout de JavaScript dans son truc, ça permettait de faire des choses, et puis on est arrivé avec jQuery, et c'était génial, parce que là, on avait un truc de vachement plus haut niveau, etc. Et là, vous avez tout foutu en l'air, donc il prend notamment l'exemple d'AngularJS, qui a des notions de service et de provider de service et de factory, etc. Et en fait, la doc ressemble assez énormément à de la doc Java Enterprise, avec des abstractions d'abstractions et des délégations de machins. Et le gars, il dit, putain, mais c'est pas possible, vous avez ruiné le truc, je comprends rien à ce que vous dites, il faut avoir fait un PhD pour suivre votre doc et la différence fine entre une factory versus un provider versus un service et comment ça se compose tout ça. Il y a un mot-clé qui s'appelle new dans le langage qui marche super bien, je vois pas pourquoi vous voulez le remplacer, etc. etc. Et donc, il y a pas forcément raison partout, mais c'est marrant à lire parce qu'il dit ça avec pas mal d'humour, et B, ça nous permet à nous de nous faire un peu de réflexion sur la complexité qu'on a parfois dans Java avec toujours des factories, des machins et des trucs. Vous avez pu le lire, vous ?
Moi, je l'ai lu là ce week-end, mais ça m'a fait exactement penser au tweet d'Antonio. C'était quand il y a quelques jours où tu disais les architectes, ils sont payés à la couche ou pas dans une appli. Je suppose JOct sur laquelle t'es où il y avait je sais pas quoi des DTO pour le front, le back, le machin, le truc. Mais ça me fait exactement penser à ça où on dit le Java c'est complexe, mais aujourd'hui on va commencer à se plaindre que JavaScript c'est complexe. Mais finalement, est-ce que c'est le langage ou est-ce que c'est plutôt ce qu'on en fait, ce qu'il en devient? Enfin, voilà, on crée des frameworks, des stacks qui, c'est elles qui apportent cette complexité. Et effectivement, c'est dans notre idée ou notre besoin, soi-disant, de rendre les trucs génériques, réutilisables, etc. On met des couches, des surcouches, des recouches, des machins. Qu'effectivement, des fois, c'est vrai que c'est en rigolant. Lui, il le dit pas en rigolant, mais c'est vrai que quand je le prends, son article de blog, j'ai eu les mêmes réflexions au début. Merde, la factory, le service, le machin, qu'est-ce que je mets dans l'Angular, à quel endroit, à quel truc. Bon, au début, tu te dis, ouais, c'est un peu abstrait. Bon, après, tu te fais tes propres règles, mais voilà, c'est vrai qu'on a tous vécu ces trucs-là dans les différentes technos. Enfin, la complexité qui est rajoutée, des fois, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Ça reste à voir, à mon avis.
C'est la tête des hommes. Il faudrait que ça soit des robots Nao qui codent tout ça.
C'est ça. Mais eux, ils s'en foutent parce que les factories, tout ça, ils comprennent. Mais une partie de l'équipe Angular vient d'un background Java, donc je sais pas si ça a influencé ou pas. Voilà. Sinon, très rapidement, il y a un truc qui s'appelle NEC, qui est en gros mec, mais pour Nashorn, qui est le moteur qui fait tourner JavaScript dans Java 8. Alors c'est plutôt un truc qui permet de faire tourner, enfin de line de commande, d'exécuter et de faire tourner les choses. Donc voilà, ça sera peut-être l'outil de scriptage possible du futur à côté de Groovy et d'autres quand on veut faire des petits trucs qui sont pas en bash. À voir. Sinon, il y avait, je crois qu'on avait déjà parlé des types d'annotations, les annotation types, pardon. Il y avait une présentation en français qui était très bien. Là, j'ai mis un lien vers une autre description qui est de Jack Center, voilà, qui permet de zoomer un petit peu sur le sujet. Il y a une présentation sur le côté noir de Scala. Alors c'est pas pour bâcher du Scala, parce que si vous connaissez pas trop Scala et que vous regardez les slides, vous allez de toute façon absolument rien comprendre. Mais je pense que c'est intéressant pour des gens qui utilisent Scala. C'est un petit peu comme les puzzles que faisait Josh Bloch, et les choses qui sont pas encore bien, etc. Je crois que c'était un peu dans cette ambiance-là que ces slides ont été faits. Et ça va éventuellement vous permettre de pas tomber dans certains problèmes quand vous écrivez du Scala. Voilà. Vous dites, si vous avez des commentaires à faire.
JavaScript, Scala, moi j'y connais rien.
C'est ça. Mais alors peut-être que tu connais VB ou C#.
VB, oui. Mais alors en plus c'est marrant parce que j'avais développé une appli VB chez un client, je vous jure, hein, en 94. Et c'était pas un petit client. C'était Generali pour le risque automobile, une grosse appli, hein, en 94. Et lorsque j'ai croisé Arnaud chez Generali en 2009, elle y était encore, l'appli. Elle était encore en prod, encore utilisée, 15 ans. Donc VB, et on revient à l'over-engineering, etc. On a développé une putain de grosse appli en 3-4 mois à 5, qui était encore en prod il y a 15 ans, enfin, donc après 15 ans. Je suis devenu un expert Java, un expert Java E, un expert machin chose. Je pense que je n'ai jamais été aussi productif qu'en VB. C'est un peu triste, mais c'est vrai.
Alors VB, c'est just fucking do it. Hein. Ça, c'est enfin just le VB de l'époque, en tout cas avec les objets com et tout là, c'était à la Barbaros, quoi.
Mais ah, c'était génial. Ça marchait bien. Ah, c'était génial.
Tu pouvais revenir en arrière. Le truc qui est vraiment bien, c'est que tu pouvais revenir en arrière, genre ah merde, je suis allé trop loin dans mon debug là. Tu remontais, prenais la souris, tu remontais ton point d'arrêt et il remontait la stack. Je sais pas comment s'il gardait les infos ou pas, mais c'est trop bien. En tout cas, tout ça pour dire, parce que c'est une super transition là qu'on a fait, mine de rien, c'est que Microsoft a sorti en open source ses compilateurs VB et C#. Alors VB.net, hein, pas le VB que qu'Antonio a connu. Voilà, pour les gens qui sont intéressés sur les compilateurs, c'est peut-être un truc intéressant à voir. Et je crois qu'ils ont sorti une organisation, mais un truc comme ça, ou en tout cas un site web sur lequel ils centralisent un peu ce qu'ils révisent en open source. J'ai oublié de mettre le lien. Donc voilà.
Et pourquoi ils font ça? Est-ce qu'ils expliquent ou quoi? Pourquoi ils mettent des choses en open source maintenant?
Alors là, il explique pas, parce que c'est littéralement l'équivalent du GitHub, c'est le CodePlex, donc c'est l'équivalent du GitHub pour Microsoft. Mais il faudrait demander en fait à Patrick Chanozon, savoir, parce qu'ils ont des gens qui sont des open source advocates là-bas, ce qu'ils n'avaient pas avant. Donc il y a quelque chose qui bouge au sein de Microsoft.
Mais ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps qu'ils ont qu'ils mettent des choses en open source. Moi, j'avais été invité à Seattle chez Microsoft en tant que membre de la communauté Java, et ils voulaient nous montrer tous les open source qu'ils faisaient aussi et ce qu'ils mettaient. Il y avait pas mal de choses. Ce qui manquait, c'était une communauté. Il n'y avait pas vraiment cette notion de communauté. Il y avait plein de gens qui mettaient tous leurs trucs en open source, enfin beaucoup de choses, mais peu de communauté derrière en fait.
Ouais, c'est toujours le truc dur, hein. C'est d'arriver à comprendre que juste mettre en open source, c'est déjà du boulot, mais en fait c'est très peu par rapport à maintenir une communauté et la faire grossir de zéro, surtout quand on a un code existant, c'est compliqué. En fait, d'ailleurs, je voulais faire un podcast sur l'univers .NET, faudrait que je relance dans les contacts. Mais un autre truc qui les a aidés, c'est Azure, en fait, qui est pour eux une plateforme d'exécution et sur lequel, par exemple, il y a toujours un talk ou deux sur Azure et Java, etc. Donc, ils sont mis un peu comme Amazon, genre, non, mais faites tourner chez vous, peu importe la techno. Donc, il y a aussi ce virage-là.
Tiens, au fait, il y a une, il y a le .NET User Group qui veut faire une conférence à Paris, un peu comme un Devox, mais en plus petit apparemment. Et bien sûr, je ne me souviens plus du nom ni de la date, mais je crois que c'est au mois de mai ou juin. Tiens, il faudrait que je retrouve. C'est vrai que c'est une communauté.
C'est pas les développeurs d'Aise.
Non, parce que c'est pas un truc fait par Microsoft. C'est vraiment en fait animé par les User Group. Tiens, ben, il faudrait que je creuse. Mais c'est vrai que la communauté .NET est proche de nous, mais en fait, éloignée aussi.
Ben, c'est comme tu disais, vous aviez essayé iOS, et puis en fait, les gens, ça les intéresse pas trop à Devox.
Ouais,
en fait,
ça
reste un peu cantonné. Voilà, sinon, il y a un article un peu, faut s'accrocher à sa chaise, etc., qui est, enfin, en tout cas pour des gens qui ont un petit peu oublié le C et les choses comme ça, c'est une proposition alors qui est aujourd'hui que dans OpenJDK 8, qui est la JEP, la Java Announcement Process 142, qui permet d'améliorer l'alignement de variables et le false sharing. Je sais pas si vous vous rappelez un truc qui s'appelait Dismax, qui est une librairie qui permet d'optimiser plein de trucs. José Pomar en avait parlé, par exemple, je sais, à certaines conférences. Et ils utilisent des trucs Sioux d'alignement pour dire, bah voilà, si j'ai la variable foo et la variable bar dans ma classe et qu'elles sont pas vraiment liées, qu'elles peuvent être mises à jour de manière concurrente, si je fais pas attention, foo et bar vont partager le même alignement mémoire, et du coup, quand le processeur va cacher les choses, il va cacher cette partie-là, foo et bar en gros en même temps. Et comme foo et bar vont être mises à jour de manière différente, et ben on va avoir des cache miss à chaque fois et ça va coûter beaucoup. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir décaler foo et bar et de dire le mets pas dans le même niveau de cache. J'imagine que c'est L1, séparer assez. Donc on fait en gros on fait de l'alignement, on met rien à la suite de foo jusqu'à ce qu'on atteint bar. Jusqu'à ce qu'on puisse mettre bar dans un range différent, et ça permet contre toute attente, ça consomme un peu plus de mémoire, mais ça permet d'améliorer beaucoup les caches de premier niveau du CPU et du coup d'aller plus vite. Et donc c'est un article en français de LinuxFR et qui parle justement de ce truc-là. Je vous recommande de lire, c'est intéressant de se rappeler tout ce qu'on oublie de base quand on fait de l'appli Java standard, mais qui est intéressant dans des cas spécifiques.
Parce que là, tu t'imagines que le mec qui nous écoute dans sa bagnole avec un bouchon et sa fille qui hurle derrière, tu crois qu'il a compris, là? Non, mais pense à lui.
Vous avez pas compris? Non, mais il y a un truc que je fais qui me prend beaucoup de temps et qui me saoule, ça s'appelle les show notes. Et du coup, l'idée, c'est que vous dites, tiens, il a parlé de ça dans les casse-colleurs, vite, j'ai un bloc-notes, j'écris le truc, etc. Et j'y reviens, je lis les show notes et je clique sur le lien pour voir. C'est le @contended annotation qui permet de décaler les choses. Nous, par exemple, on sait dans InfiniSpan qu'on a des contentions de cache de premier niveau, mais c'est hyper dur de savoir où, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'outil qui te permet de savoir où. Donc, c'est vraiment du travail de fourmi. Contended n'étant que la solution finale au problème. Il faut savoir qu'on a le problème, ensuite trouver les problèmes et avancer là-dessus. Bon. Il y a encore sur les langages, il y a les choses qui sont Turing complete, mais de manière accidentelle. Alors Turing complete, ça, je crois que ça veut dire qu'on peut faire tourner tous les algorithmes classiques. Enfin, c'est quoi la définition officielle d'ailleurs ? Vous vous rappelez ?
Ouais, je sais plus, mais il y a une notion de infinité en plus. Donc la machine de Turing, elle n'existe pas parce que il faut de la mémoire infinie, du processeur infini. Enfin, je sais plus. Il y avait un délire comme ça aussi dans le Turing complete.
Ouais, j'essaie de trouver le truc, mais Turing complete, ça c'est la machine, ce que tu décris, c'est la machine théorique qui permet de faire tourner les algorithmes, mais à part, normalement, cette machine théorique permet de faire tourner, voilà, toute une classe de choses, et une machine qui est Turing complete, c'est une machine qui sait faire tourner les mêmes algorithmes que la fameuse machine de Turing.
Yes.
Logique. Donc. Turing Complete, ça peut arriver parce qu'on a écrit un truc qui doit être Turing Complete, genre Java, C, etc. Puis ça peut aussi arriver par accident. Les templates C++ sont, même si c'était pas fait exprès, sont Turing Complete. Donc vous pouvez en gros développer tout un programme et l'exécuter dessus. Plus bizarrement, Magic the Gathering, apparemment le jeu de cartes, est aussi Turing Complete. Donc, les règles vous permettent d'exécuter ce que vous voulez. Pareil pour HTML5 et CSS3. Minecraft, mais ça on le savait. SQL, on ne sait pas forcément, mais avec certaines extensions, c'est Turing Complete. Les règles de réécriture d'Apache.
Ça, je confirme.
HTTPD sont Turing Complete. Alors, je dis pas que c'est simple à écrire, mais c'est possible.
Je peux tout faire.
Pokémon Yellow, le jeu que je ne connais pas du tout, apparemment, est Turing Complete. Le système de type Scala, mais on en avait déjà parlé. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas, là, pour le coup. Les templates MediaWiki sont Turing Complete. Donc, est-ce que le template XWiki de base est Turing Complete? On ne sait pas.
Bah, bien sûr.
Bien sûr. Ouais,
il est même éponyme.
Ça amène à la révélation.
C'est la Turing ultime, en fait. C'est le niveau du dessus, c'est pas là. Little Big Planet, c'est Turing Complete. Sendmail aussi. C'est un peu du même niveau que Apache, les règles de redirection d'Apache, là. Sendmail, c'est assez compliqué. Voilà. Donc, et le gars pointe vers les preuves ou les fortes suspicions que X ou Y est Turing Complete. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire ça. Voilà, on va passer aux plateformes. Vous vous rappelez Gcash, cette spec qui a mis des siècles, un petit peu moins que Java Real Time, mais quand même, qui permet de dire, qui définit une interface qui permet de cacher les choses par clé, les récupérer, les invalider, ce genre de choses. Et donc Spring avait des annotations à eux pour cacher des résultats de méthodes, des exécutions de méthodes en fonction des paramètres, etc. Et donc là, ils ont fait un support pour Gcash et il y a une présentation sur Spring.io, le blog de Spring.io qui explique justement les différences de sémantique quand il y en a et les différences de code. Donc c'est relativement bien expliqué, je vous encourage d'aller là-dessus.
Donc Gcash sera avant dans Spring, puis dans 3-4 ans dans Java E. Bravo.
Voilà. Et ça t'empêche pas d'utiliser Gcash aujourd'hui dans tes applications Java E, c'est ça qu'on oublie embarquer des threads.
Tu rajoutes à la mano.
Tu rajoutes à la mano ou alors ton serveur d'application le fournit déjà.
Oui, en dehors de la spec.
En dehors de la spec. Disons au-dessus de la spec.
Enfin, au-dessus de la spec.
Alors après, c'est valide ou pas, on a un débat en interne, parce que dès que tu dis « Ah, mais je rajoute un truc qui est dans la spec d'après, mais tout va bien », là, nos amis d'Oracle, ex-Sun, sont un petit peu énervés des fois, genre, mais c'est pas compliant avec le truc, le document de 850 pages que vous avez signé, etc. Donc, bref. Une présentation sur Debt on Time, je l'ai pas vue, mais il y a des gens qui disaient qu'elle était bien. En tout cas, elle est de Stéphane Colbert, donc c'est le monsieur Debt on Time. Donc, si vous n'avez pas encore vu Debt on Time de Java 8, allez regarder cette petite présentation qui dure 44 minutes et 15 secondes. Sur Vimeo.
Par contre, moi, j'ai pas compris si on pouvait utiliser cette API dans le JDK 7, s'il y avait un backport ou pas, je crois pas. Est-ce que quelqu'un sait ou pas?
Non, je sais pas.
Pas à ma connaissance. Enfin, non, c'est pas, enfin, c'est dépendant, c'est dans le, après, c'est JodaTime que tu utilises si t'es en 7, mais qui est proche, mais qui est pas l'API exacte.
Bah, qui est proche, mais qui est pas exact, ouais.
Mais non,
tu peux avoir du backport, par exemple, les concurrency, ils ont souvent été backportés à des JDK anciens.
Et j'ai pas vu passer de backport de cette partie. Enfin, j'ai pas vu, en tout cas.
Spring Boot. GA est sorti.
GA.
GA.
Elga.
Spring Boot GA. Ça, genre, tu vois, je suis déçu. Guillaume est pas là parce qu'il est à Mixit. Et donc, je m'attendais à qu'il fasse une blague, mais non. Voilà. Donc, Spring Boot, c'est, on en avait déjà expliqué les fois à l'avant. Donc, ça y est, la version, la première version finale est sortie. Donc, si vous êtes dans cet environnement, vous pouvez aller voir. Ensuite, il y a, on avait parlé d'un pool de connexion qui était qui avait travaillé pour être très très rapide, etc., etc. Il faisait des optimisations même au niveau du bytecode sur les choix de code qu'il faisait. C'est Ikari CP. Et donc les gens de, ben nous en fait, les gens d'Hibernet ont bossé avec lui, un pour l'intégrer dans Hibernet 4.3 et 5. Donc ça c'est cool. Et ensuite, ben le un monsieur de bah, de chez nous, en fait, un gars d'Hibernet a expliqué comment utiliser Ikari CP plus Hibernet dans Spring, même avant l'intégration qu'on a fait, nous. Et donc, ça vous permet de, bah, à la main, vous créez une data source Ikari, vous la construisez dans vos trucs bin machin truc, et vous injectez cette data source dans Hibernet, et Hibernet utilise ça. Donc voilà, donc vous avez un lien pour l'utiliser dès aujourd'hui, et puis dans le futur vous pourrez l'utiliser dans Hibernet. Donc c'est cool. Heartbleed, on peut pas ne pas parler de Heartbleed quand même si on est un peu tard, vachement en retard par rapport à tout le monde. Bon, on va dire que Arnaud, tu vas nous expliquer ça.
Hein. La bonne blague. Heartbleed. En gros, c'est faut patcher tout ce qui est en SSL, c'est ça que tu voulais savoir, non?
faut faire des trucs, on nous a dit, c'était hyper grave, il aurait fallu le faire il y a 3 ans.
Ouais, bon, en gros, c'est OpenSSL, la librairie open source qui a eu un petit bug dans un algo, alors je vais pas tout regarder en détail, mais c'est dans un système de ping où en fait, ils envoient entre le client, enfin entre la partie SS, enfin client et serveur, où quand ils valident les certificats, etc., ils se font des petits coucous pour se dire s'ils sont toujours là, etc. Et en gros, il y avait un moyen, faute d'un contrôle mal foutu, qui permettait de récupérer plus ou moins une partie des données qui étaient en mémoire dans le serveur du côté SSL. Donc t'es côté client et tu te fais coucou le serveur, et tu pouvais récupérer une partie donnée de ce qu'il y avait en mémoire dans le serveur, parce que t'es directement au niveau de la mémoire, etc. Donc potentiellement tout et n'importe quoi a pu être pris dans les côtés serveurs. Alors bien sûr, ça peut être simplement le mot de passe. Ça peut être une partie des clés privées, ça peut être mais n'importe quoi potentiellement qui était du côté des serveurs, qui était censé être protégé via donc SSL ou surtout HTTPS pour ce qui concerne tout ce qui est web. Et donc,
ce qui est grave, c'est que c'est justement la clé privée, parce que quand on a la clé privée SSL, on peut se mettre au milieu.
Voilà, c'est ça.
Alors ça demande un peu de moyens, mais on peut se mettre au milieu, faire croire qu'on est le serveur de Gmail. Voilà. Recevoir tes demandes, les envoyer au serveur Gmail et lui dire vas-y file-moi toutes les infos, et en gros lire,
tu décryptes
tout, même enregistrer tout le trafic et le relire et le décrypter après. Ouais. Et ça faisait un peu plus de deux ans que le bug qui avait été commité un 31 décembre.
Oui, c'est ça. C'est là que c'était assez marrant, mais effectivement, le bug a été commité un 31 décembre à minuit et des poussières, donc bien sûr, après tous les gens.
Et ce qui est grave, si vous l'avez pas... après ce que j'ai compris, ce qui était grave aussi, c'est que la NSA, elle avait été au courant, a priori. Enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas, c'était confirmé.
Ils ont nié, mais...
Ouais, ils étaient potentiellement au courant depuis un certain temps, mais le président, c'était Obama, avait fait voter une loi qui ne les obligeait pas à divulguer le fait qu'ils savaient qu'il y avait ce problème.
Ouais. Alors ils ont nié fermement que, ouais, qu'ils disent non, sur des trucs comme ça, on le garde pas pour nous. Voilà. Et a priori, il y a pas eu. En fait, c'est difficile à voir parce que dans les logs, on voit pas que ce ping-là est fait. Voilà. Ici, on peut, mais s'il faut loguer vraiment tout à des niveaux vachement plus bas.
Bah ouais, faut loguer au niveau debug SSL, donc jamais personne en prod peut avoir ça en fait.
Non, vous loguez carrément les paquets qui rentrent.
Oui, ou les paquets TCP, enfin ouais.
Ce genre de choses. Voilà. Mais justement, il y a des gens qui loguent de ce genre de choses, et en tout cas, le trafic a vachement augmenté depuis que le problème a été annoncé au public. Mais avant, il y avait très peu de volume là-dessus, apparemment, de ce que les honeypots et les choses comme ça peuvent détecter. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les bugs, ça arrive. Là, c'est pas de chance, il a oublié de vérifier
la taille du message.
Et ce qui est intéressant, et ça a levé des trucs, c'est que c'est au cœur des technologies de 2/3 des services web OpenSSL. Alors peut-être pas cette version précisément, mais c'est au cœur de 2/3 des services web sur lesquels il y a vos banques derrière, il y a tout ce que vous voulez, quoi, Facebook, etc., etc. Et il a fallu 2 ans pour le voir. La revue de code, bon, bah, le gars, il a pas vu qu'il y avait un problème, pas de chance, et c'est resté pendant des mois et des mois. Et les gars disent, finalement, c'est une petite équipe de gens assez passionnés, mais ils font pas vraiment d'argent sur OpenSSL. Il n'y a pas vraiment de procédure vachement stricte sur les choses. C'est un petit peu le bordel dans le code, même si globalement ça marche. Et donc, où il y a une petite prise de conscience, des gens qui se disent, bon, bah, on va peut-être filer de l'argent pour que, voilà, il y ait des gens qui puissent faire de la revue de code un peu plus poussée, etc., etc. Alors, il y a des gens qui ont forqué OpenSSL, ils appellent ça LibreSSL. C'est les gens d'OpenBSD pour dire, bah, il y a plein de trucs, genre le support de VMS, bah, on va virer tous ces trucs-là qui servent à rien et qui ouvrent potentiellement des problèmes et complexifient le code. Enfin, bref, il y a pas mal de choses qui ont bougé sur OpenSSL et sur d'autres choses qui sont assez critiques. On peut imaginer NGX, ouais. Apache HTTPD, voilà, ce genre de choses qui sont vachement utilisées sur le web. Et certains ont utilisé comme une preuve que bah, l'open source, ça marche pas forcément. Parce qu'on dit, oui, l'open source, c'est bien parce que tout le monde peut regarder le code, ouais, et trouver les bugs, etc. Mais en même temps, tout le monde, enfin 99,999% des gens regardent pas le code de ce qu'ils utilisent nécessairement.
Bah on en revient à la question de tout à l'heure, qui est l'open source, c'est pas seulement laisser les sources lisibles, mais c'est d'avoir une communauté. Quand t'as une communauté qui effectivement s'intéresse au projet, que t'as des gens qui vont participer régulièrement sur le code et tout, bah oui, t'as des chances que ils trouvent ces bugs-là qui tombent dessus et tout ça, en dehors même des problématiques de pratiques de développement et tout. Mais si c'est juste effectivement avoir un projet qui est disponible sur le net, mais que derrière les mecs ils sont 4 à contribuer une fois ou deux dans l'année, bah oui, voilà, ça te garantit pas grand-chose. La preuve, c'est Google, je crois qu'il a trouvé d'ailleurs ce truc-là au final. C'est...
Ouais, Google et d'autres gens, ouais, c'est ça, au parallèle. Et c'est marrant, ils expliquent... Il y a un podcast qui s'appelle Security Now, qui est, bon, pas toujours bien, mais qui, là, c'était intéressant. Il explique que, ben, comment ça s'est passé en termes d'historique. Google le trouve, ils patchent leur serveur. Ensuite, ils en parlent à des gens qu'ils estiment de confiance, qui vont pas le divulguer. Eux patchent leur serveur, etc. Et évidemment, ils en parlent à OpenSSL en leur disant, voilà le problème, ça serait bien de préparer un patch et de préparer une date à laquelle vous allez annoncer au monde le problème. Et petit à petit, voilà, les cercles-là s'agrandissent et puis à un moment, ça leak et ils décident de l'annoncer de manière publique.
Sachant que les fixes ont été faits assez vite, hein, quand même.
Ouais. Rapidement, il y a un blog sur JavaFX, donc le gars qui a commencé des petits tips sur JavaFX, donc il en est à son 3e, donc si vous êtes dans l'univers JavaFX, je vous en recommande d'aller voir les show notes.
Mais qui est dans cet univers JavaFX?
Je crois qu'il y en a, hein. Nous on n'y est pas encore.
Un univers parallèle?
On n'est pas très UI nous, parce que nous ça sert à rien, la UI, mais... Mais il y a des univers dans lesquels, visiblement, bah, là où les gens utilisaient du Swing, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser JavaFX.
Bah écoute, moi je vois du Google Web Toolkit et je vois même du Vadin. J'y aurais pas cru.
Ça, c'est du web.
Oui, bien sûr.
Mais Vadin, c'est Google Web Toolkit +.
Oui. Mais pour eux, c'est plus simple parce qu'ils développent ça en Java avec une approche très très Swing. Mais JavaFX, moi je le vois pas, quoi, je le croise pas chez mes clients. À suivre. Depuis 2006 JavaFX, ou 2008 je crois. Enfin, Java One,
il y a une
annonce.
Sous-communauté qui est assez active. Effectivement, nous on le voit pas, mais il y a des gens qui font leur beurre dessus et que ça marche pas trop mal. Enfin. Voilà, c'est pour ça que j'en parle, parce que sinon on nous accuse de pas parler des trucs, tout ça. Voilà, on va parler aux services et produits. Il y a le patron de Google Plus qui s'en va de chez Google. Donc il y a un monsieur qui a fait une rétrospective, qui est arrivé quelques semaines avant Google Plus sorte, et donc il fait une rétrospective sur Google Plus, ce qu'il pense avoir été les problèmes, des choses qui étaient inévitables en termes de problèmes, notamment bah quand tu démarres avec tes Twitter et que t'es pas connu, bah tu peux scaler, améliorer ton produit, etc. Quand t'es Google et que tu lances le produit, les gens ils le détestent ou ils l'adorent, et puis ils vont pas forcément y revenir après, et tu peux pas avoir une tester gentiment, doucement avant d'arriver. et que comme Google c'est vachement enfin pas mal de matheux, des algorithmes et des machins, voilà, il y a plein de choses qui avaient pas été bien vues des points de vue de ressenti utilisateur, notamment ben filer toutes ces données à Google via Google Plus, etc., etc. Moi personnellement, bah je sais par exemple que Romain l'adore et l'utilise beaucoup, Romain Guy. Moi, dès que j'y vais pour un lien de quelqu'un, je comprends rien. Les photos, je comprends, j'ai jamais celles que je veux qui ont l'air d'avoir été linkées. Quand j'arrive et que je cherche quelque chose, je le trouve jamais. Je sais pas votre ressenti à vous, mais moi personnellement, c'est pas une plateforme que je comprends. Ouais. Mais après, j'utilise pareil, Flow, donc.
Je suis content que tu le dises parce que moi, je comprends rien à Google Plus et je me dis, mais je suis la seule buse ou est-ce qu'il y en a d'autres comme moi? Je ne comprends strictement rien, mais enfin...
On est deux, si tu veux qu'on fasse les...
Non, quatre, j'utilise vraiment très peu.
Je crois que Guillaume l'utilise plus. Donc
sur la partie
voilà.
Picasa, sur la partie photo, si j'utilise, parce que la partie upload, partage, etc. est pas mal fichu. J'aime bien quand même la partie cercle avec les groupes, etc. Ça, c'est pas trop mal fait pour les...
Ah, mais j'ai passé des heures à créer mes cercles, et au final, j'utilise...
Ah non, mais par contre, j'ai trois cercles, hein, j'en ai pas 15, hein, c'est clair, sinon c'est pas gérable, ouais. Mais bon...
Parce qu'après, j'avais... Open source, work open source, ouais, voilà, famille, non, fin, amis, famille, bref, insupportable.
Mais sinon, oui, je suis pas convaincu. Enfin, après, je l'utilise jamais pour comme source d'information ou quoi que ce soit, contrairement à du Twitter par exemple. Ça me sert pas dans ces médias-là.
Ouais. Après, faut faire des choix parce que sinon, on passe sa vie à lire ses mails, après, regarder les blogs et on passe
sur Facebook,
au lendemain.
Twitter, Google Plus et d'autres réseaux, donc.
Ouais. Ensuite, un truc qui est pas mal utile, un article intéressant qui résume les choses, j'espère que tu auras des commentaires, Arnaud ou les autres, c'est les outils de management des logs. Alors, ils expliquent un certain nombre de produits avec les plus et les moins, donc c'est assez résumé, mais en tout cas, ça donne une liste de choses. Il y a Splunk qui est vraiment le grand-père de tout cela, ouais, qui est un ça. Produit qui coûte assez cher, qu'on installe chez soi, de ce que je comprends bien.
Tu peux l'installer chez toi. Je crois pas qu'ils aient deux versions disponibles directement sur le web.
Ici, ils en ont une, mais en gros, plus en démo qu'autre chose.
Ouais, c'est ça, voilà.
Et ça vous permet d'analyser vos logs, faire de la corrélation, de dire, bah, tiens, le temps moyen, grâce à mon analyse de log, il y a un pic bizarre, ça se trouve, c'est une attaque, ce genre de choses, je crois, peuvent être faites à partir de ce genre de produit.
Ouais, c'est ça.
Ensuite, il y a plein de gens qui se sont dit « Non, mais c'est trop compliqué, trop cher. Ce qu'on va faire, c'est simple. On va faire du SaaS pour les logs. » Donc, le truc bien, c'est que c'est simple. Alors, en général, ils ont des intégrations. Donc, vous mettez genre du SLF4J. Vous avez un appender qui va envoyer ça directement chez eux. Super. Le truc un peu moins bien, c'est que ça vous fait des gigas de données qui sortent de chez vous.
Voilà, c'est ça.
Avec de la bande passante, faut suivre, etc., etc. Donc, pas forcément... super facile à mettre en place, j'imagine des règles de firewall, etc., qui vont bien. Donc voilà. Donc et après donc faut voilà les pros et le positif et négatif. Là-dessus, il y a un certain nombre de produits, Sumo Logic, Logly, etc., qui sont plus ou moins avancés en termes d'interface et en termes de fonctionnalité. Paper Trails aussi qui est en gros ce que vous voyez quand vous ouvrez votre fichier de log, mais sur Internet. Donc c'est assez minimaliste, très grep, ce genre de choses, mais qui vous permettent pas d'analyse plus avancée dont j'ai parlé un petit peu avant. Voilà, il y a Splunk Storm, qui est la version SaaS de Splunk, mais qui est plus une version pour jouer. Mmh. Et il y a des versions open source qu'on peut installer chez soi, notamment celle dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, sur Logstash. Le Logstash, Kibana, Elasticsearch, voilà, qui est une combinaison qui vous permet de faire plus ou moins ce que Splunk fait. L'inconvénient, c'est que c'est trois stacks, faut bien les intégrer ensemble, etc., etc. Il y a Greylog 2 qui est aussi un truc open source qui permet de faire ça. Donc je vous encourage à lire cet article, ça donne un petit résumé de cet environnement, même si ça vous intéresse pas aujourd'hui, c'est peut-être un truc à garder pour le futur. Sinon, des gens qui utilisent Docker, moi j'ai l'interface CLI, je la trouve un peu comme Git, quoi, pas très compréhensible. Donc il y a des gens qui ont écrit des fonctions bash, donc si vous utilisez Docker, je vous encourage à aller voir ce petit article qui, en gros, il a fait des alias qui synthétisent un peu certaines fonctions Docker qu'on utilise assez souvent. Blink, vous vous rappelez ce que c'est Blink?
C'est le bio Chrome, non, je sais plus, c'est le...
Voilà, c'est le truc de Chrome. Ouais. Mais on en a plus entendu parler, mais ça fait déjà un an.
Ah bon?
Mais
ouais, ça fait incroyable. Déjà un an. Et donc, ils ont fait un blog qui explique ce qui s'est passé, que non, c'est pas que Google, il y en a d'autres qui contribuent, etc. Donc les gens qui sont intéressés sur les moteurs les moteurs de navigateurs, je vous encourage à aller voir ce blog de nos amis de chez Chromium. Parce qu'au final, on continue à parler de WebKit, etc. On parle pas de Blink comme un moteur séparé.
Bah oui, oui.
Ensuite, je sais pas si d'un coup tout le monde il y a eu un truc sur TDD est mort, arrêtez de nous saouler avec TDD, etc. Moi, j'ai lu l'article de DHH, donc le monsieur David Einmeier Hansen qui a créé Rails, et qui dit, ouais, vous nous cassez les couilles avec TDD, moi, j'écris pas mes tests avant même d'avoir écrit la première ligne. Donc, je pense que nous, on est assez vieux pour se dire, bah ouais, on n'est pas des dogmatiques, on va écrire certaines choses pour travailler notre API, qu'elle soit proprette et utile, après de là à écrire forcément les tests en premier avant la première ligne de code qui va implémenter ces trucs là, c'est pas forcément comme ça que je fais, en tout cas, je sais pas vous. Et donc en gros, son résumé, c'est bah arrêtez d'être dogmatique et écrivez des tests, ça sera déjà bien.
The right tool for the right job.
Ok, je suis pas sûr que ça s'applique à ça.
Non, c'est pas c'est ça, c'est que, comme vous pouvez l'entendre, la perceuse...
Comme le marteau piqueur.
La perceuse s'est mise en route, c'est pour ça que j'ai coupé le son, en fait. Non, bon, donc, si le bruit de derrière ne vous gêne pas trop, moi, je...
Bah, tu coupes quand tu parles, et puis quand tu parles, tu découpes, et puis...
Non, mais moi, je le TDD, j'en ai jamais fait. Il y a une période de ma vie où je me suis caché, parce qu'on me lançait des pierres, parce que je faisais pas de TDD. Mais effectivement, je pense qu'il faut prendre la bonne techno au bon moment de votre cycle de vie du projet. Au début, quand on est sur une feuille blanche, on a peut-être envie de taper un peu de code de métier, puis faire les tests après. S'il y a un bout de l'API, effectivement, on n'est pas sûr, itérer avec des tests avant, etc., etc. Mais peut-être qu'on est vieux, mais en gros, les tests... au bon moment, selon ce que vous jugez, vous, je pense.
Voilà, mais pas 6 mois après, parce qu'on ne les fait pas.
Aïe, ça, aïe.
C'est sûr.
Ça, c'est le problème aussi.
Ouais, c'est ça. Ni trop tôt, ni trop tard.
Voilà. Sinon, moi, je lisais un truc. Donc, on est une boîte assez grosse, hein, finalement. Mais je crois qu'on est 5000 ou 6000. Donc là, je lisais un post sur Medium des gens de... Airbnb. Ouais. Et bon, l'article est très rien de nouveau sous le soleil. Par contre, il y a une phrase qui m'a vachement intéressé, c'est the stronger the culture, the less corporate process a company needs. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que quand on atteint une taille, on est quand même obligé de faire des process que tout le monde trouve pénibles, décalés, etc. Et est-ce que une culture forte, et est-ce que c'est dû au fait que la culture se dilue parce qu'on ingère des centaines de personnes parfois par mois et qu'on n'est plus capable de leur expliquer ce que c'est la société, de détecter s'ils vont être proprement dedans ou pas? Et est-ce qu'une culture suffirait à réduire la paperasse, qu'elle soit virtuelle ou pas, la paperasse des sociétés? Et donc c'est intéressant, je dis pas qu'il a raison ou pas, hein, parce que c'est une boîte, je sais pas quelle taille ils ont, mais historiquement ils étaient pas beaucoup, en tout cas quand le vaisseau leur a dit ça, ils étaient pas gros, je pense. Et donc voilà, c'est une bonne question pour, je sais pas, là on a 3 tailles de boîte, je crois, donc moi c'est 5000, 6000, XWiki, je sais pas combien vous êtes, 50, 100, 40, comme ça.
40,
d'accord. Exo un peu plus, je pense.
150 environ.
Ouais, vous avez quoi, beaucoup de process, vous êtes en train de réfléchir à des process?
Ouais, on a plus de process, c'est clair qu'avec la taille, ces dernières années, on a de plus en plus de process, parce que bah oui, justement, enfin c'est lié au... La culture, on a beau l'avoir, c'est pas. Déjà, bon, on a plusieurs offices, plusieurs bureaux, donc c'est pas très simple comme modèle. Faut aller distribuer la culture, faut pouvoir la passer. Et puis, bah oui, bien sûr, il y a le turnover, donc faut gérer continuellement le flux des personnes et s'assurer qu'effectivement ils rentrent bien dans le moule, mais tu peux pas non plus attendre que ça se passe en 3 mois ou 6 mois, donc faut des cadres, faut des règles, faut des choses comme ça. Donc oui, c'est vrai que oui, il y a des règles. On essaye toujours de les limiter au maximum, mais même à 150, on est obligé d'avoir des règles.
Mais on essaye ou pas? Parce que moi, quand je me suis fait avaler de JBoss à Red Hat, ça a été un peu le choc, quoi. Mm. Parce que je me suis dit, mais là, c'est une boîte qui a des process qui font tourner une boîte de 10 000, 20 000 personnes, quoi. Mm. Alors que à l'époque, on était maxi 2 000. Et je trouvais donc qu'il y avait eu un abus des gens qui dont le métier c'était de scaler la boîte ou je sais pas ou de générer des process, et ce que je trouvais très énervant, quoi, parce qu'en plus les process ont tendance à dire je déporte le travail à la personne. Par exemple, un exemple typique, c'est genre les ressources humaines qui disent oui, nous ça nous embête d'avoir à gérer les jours de congé, les machins, donc ce qu'on va faire c'est que vous allez devoir rentrer dans tel outil vos jours, votre manager va approuver, il y a un workflow, un machin, et ensuite comme ça nous on n'a rien à faire, on clique F5 sur un dashboard et on voit que les jours ont bien été consommés et que c'est pas de la dette pour la société. Alors ça c'est un exemple, en l'occurrence ça se trouve c'est peut-être la bonne façon de faire, mais il y a plein d'autres exemples où on dit ouais c'était trop dur pour l'équipe, donc ce qu'on va faire c'est que tout le monde un petit peu dans la boîte va faire le boulot, et ce qui fait que ça dilue ton boulot à toi qui est de développer une appli, bah ça, tu perds du temps à faire tes expériences, tes machins, tes trucs. Ouais, les expériences c'est un autre cas horrible. Et tu perds du temps à faire ce genre de choses et du coup pas à bosser sur ton truc et ça t'énerve, et même si ça t'a pris 3 heures, bah ça t'a énervé, t'as pris 7 cafés et t'es au bout de 6 heures, t'as pas commencé à écrire.
C'est ça, t'as rien fiché de ta journée parce que voilà. T'es énervé à faire de la paperasse.
Moi j'aime bien.
T'aimes bien la paperasse?
Non, pas la paperasse, mais j'aime bien ce que fait la boîte Gore-Tex, vous savez, ces matériaux pour les chaussures de ski, enfin les chaussures pour le ski, etc. Et j'avais lu que eux, ce qu'ils faisaient, c'est dès qu'ils atteignaient 150 personnes, ils faisaient une spin-off, une nouvelle compagnie complètement indépendante de la première, et ils en faisaient plein de petites, comme ça, de 150 personnes.
Ouais, c'est comme 3M, ils font ça.
Ouais, parce que leur postulat, enfin ce qu'ils ont remarqué, c'est 150, tu peux arriver à avoir une bonne cohésion, en gros... Une personne peut être capable de connaître l'ensemble des autres personnes et savoir ce sur quoi ils travaillent, dans quel domaine, etc. Et de pouvoir aller, quand t'as un problème donné, d'aller directement voir une personne parce que tu sais qu'elle a les compétences X ou Y dont t'as besoin pour résoudre ton problème. Et qu'au-delà de cette taille de 150, tu as des groupes, t'as une scission qui se crée et des groupes qui se créent avec des gens qui se connaissent pas du tout. Et du coup, tu as besoin de vachement plus d'efforts et de mettre des personnes au milieu pour faire le pont entre les différentes personnes de la société. Et donc, tu crées cette bureaucratie.
Moi, je suis totalement d'accord avec ce modèle. Et j'aimerais pas. Alors, je suis pas CEO, mais j'aimerais énormément le tester en grandeur nature. Une des questions que j'ai, c'est mais si tu veux faire de la vente internationale avec des équipes locales partout, est-ce que c'est un groupe de 150 qui contient tout, ou est-ce qu'à un moment t'es capable de dire bah non, là la vente c'est un groupe, on séparé, ou et du coup c'est plutôt le groupe la business unit, c'est-à-dire les gens qui font le marketing, le dev, ce que vous voulez, le support, etc. Et par contre la vente est séparée, tu vois. C'est, il y a des questions comme ça, parce qu'à un moment à 150 tu peux pas
ouais, c'est une bonne question,
potentiellement
tu peux le faire comme tu faisais en agile, c'est tu sépares ton scope, en fait tu fais chaque boîte a une feature et est resserrée sur un scope plus restreint, mais elle fait tout de A à Z sur ce scope-là, la vente, le marketing, etc. Sur ce scope-là, donc t'as pas d'effet d'échelle sur les différents métiers dans ce cas-là.
Sur la vente en tout cas. Ouais.
Ouais.
Mais après les effets d'échelle, moi j'avoue que j'y crois. Alors, un, sur des métiers créatifs, c'est un petit peu illusoire, ouais, je trouve. Et ensuite, les effets d'échelle, à un moment, tu vois, quand t'as, je sais plus, là c'est Steria et je sais pas quelle autre boîte qui vont merger pour être un groupe. Et Sopra, voilà, pour être un groupe, je sais pas, compétitif à un niveau machin. Bon, moi, je regarde le truc, ça me laisse de marbre. C'est genre, mais vous, enfin, clairement, vous vivez pas dans le même monde que moi. Clairement, j'ai pas forcément envie de comprendre pourquoi vous estimez que c'est une bonne idée, mais ça a l'air d'être un désastre en devenir, quoi.
30 000 personnes, la fusion, ça sera 30 000 personnes. Et je me souviens encore de l'ancien ministre breton qui est à la tête d'Atos Origine. Et lui, il disait, je veux qu'Atos soit la plus grosse SS2I en Europe. Et il visait 50 000 personnes. Je sais pas où ils en sont. Mais vous imaginez une SS2I de 50 000 personnes partout en Europe. Bon, ouais. Bref.
Ben moi, j'espère que le futur, ce sera les petites sociétés et que ce sera pas les gros, justement. J'espère qu'avec le monde plat dans lequel on est, où on peut adresser beaucoup de gens directement, que les petites sociétés peuvent tirer leur épingle du jeu et se développer plus, quoi. J'aimerais bien ça, une société très fluide où les personnes, toi, elles bougent d'une société à l'autre, elles sont embauchées d'une société à l'autre en fonction de leurs compétences du moment et en fonction des besoins de la société, avec plein de petites sociétés comme ça. Ça, ce serait...
Eh ben, hier, je lisais que Nestlé, hein, a 8000 marques. Et je ne parle pas de produits. L'article disait Nestlé possède 8000 marques. Ils achètent tout. Donc ils ont des centaines de milliers de produits. Donc vous achetez du café en grain, du café machin, du Nescafé, du machin. Tout ça, c'est Nestlé. Et moi, j'ai peur que l'avenir, pour mille et une raisons, on coupe les coûts, on machin, etc. J'ai peur que l'avenir, c'est quatre ou cinq grosses boîtes qui se divisent le monde, quoi. L'artisanat, les petites boîtes, je sais pas. Bref, ça, à suivre. Je suis un peu moins optimiste, moi.
C'est le risque. Maintenant, tu vois les Kickstarter, etc. Ça, c'est bon. Après, c'est épiphénoménal peut-être, mais.
Ouais. En fait, les grosses boîtes. Il y a une théorie économique qui dit que les grosses boîtes, elles sont là parce que le coût de transaction de séparer ça en petites boîtes. Et élevé, et le fait d'avoir une grosse boîte qui a une structure très militaire, en fait, hein, enfin, avec un chef qui dit là où on va, enfin, avec des sous-chefs, etc., elle est plus efficace à cause de ce problème de transaction. Mais comme disait Vincent, on est dans un monde qui s'aplatit énormément, sur lequel tu peux prendre une autre boîte pour faire ton marketing, tu peux prendre une autre boîte pour gérer tes logs, etc., etc. Et donc, tu vas pouvoir réduire la taille des boîtes, limite à potentiellement une personne. Alors, une personne, ça pousse beaucoup, mais je pense que je suis optimiste sur les petites boîtes. Mon problème, c'est l'accessibilité aux clients qui, à un moment, sera débordée de 5 milliards de petites boîtes. Et donc, comment est-ce qu'ils choisissent
Et n'oubliez pas que la plupart des petites boîtes, et surtout dans notre monde à nous, hein, la plupart des petites startups, leur rêve quand même, c'est se faire racheter. Donc je sais pas. Moi, j'aimerais croire en un monde meilleur, mais lorsque je regarde autour de moi, je vois plutôt des boîtes qui achètent des boîtes, qui sont rachetées, qui rachètent des boîtes. Enfin, c'est les poupées russes.
Ouais. Moi, je vous recommande Rework. De non pas DHH mais son collègue fondateur de je sais plus quelle boîte là 37 Signals qui est très bien là-dessus, qui dit voilà, nous on a monté la boîte avec l'objectif de pas se faire racheter et de juste de sustaining, je sais pas comment dire en français, nous plus nos employés, on travaille en délocalisé, on n'embauche pas une nouvelle fonction tant qu'on l'a pas fait l'expérience de ce que c'est, du coup, de pouvoir embaucher la bonne personne. Il y a plein de petits conseils comme ça sur grossir de manière organique, décider de tuer les projets et de quand on estime qu'on peut pas tout faire et de pas essayer de se faire acheter nécessairement. Donc, je vous recommande Rework, c'est un livre. Sinon, on va passer à... On fait encore un débat, malheureusement. Il y a GitHub, donc le CEO qui est parti. Vous vous rappelez, il y avait un problème avec des soupçons d'harcèlement, enfin, pas sexuel, mais en l'occurrence de pression sur une collègue femme, par sa femme, à lui. Enfin, bref, on en avait déjà parlé.
Pire donc, que Dallas.
Pas mal, ouais. Ouais, ouais. Plus court, quoi.
Ouais, ça a été un peu plus vite.
C'est l'effet Twitter, ça.
C'est ça.
Et l'article de Read Write il explique un certain nombre de choses et il dit voilà, c'est dommage parce que CEO, il travaillait, il était le leader de Jekyll et on a bien vu que quand il n'y a pas de mec à la tête des projets, c'est le bordel, voire Heartbleed. Est-ce que Jekyll va survivre au fait que le lead développeur qui se trouvait être aussi le CEO de GitHub va faire autre chose à partir de maintenant? Et Jean-Laurent, donc qui m'a pointé vers ce bout de paragraphe, on disait mais c'est peut-être que vous avez des commentaires parce que lui et moi, ça, on trouvait ça juste complètement hallucinant que quelqu'un croit que voilà, dès que le leader même le leader invétéré d'un projet s'en va, ça fout la débâcle absolue dans les projets open source. Je trouve, je sais pas si vous avez des commentaires là-dessus, mais c'est
bah tout à l'heure, soit on naïf, que, soit. Bah oui, mais tout à l'heure on disait aussi que l'open source, s'il n'y a pas une communauté derrière, ça sert pas à grand chose. Enfin, disons, voilà, il y a eu le problème d'SSL, mais vous connaissez comme moi mille et un projets open source qui démarrent et puis le lead s'en va et ça vivote et ça meurt. Bon, là, on parle de GitHub, c'est quand même pas pareil, mais.
Mais là, il dit un truc intéressant. Il dit the unwise. Il dit en gros depuis Heartbleed, c'est clair que c'est complètement déconseillé ou enfin de laisser un projet dans la main de dans la main du tout un chacun en fait, dans la main de in the hands of the masses. Et là tu dis en gros il soit t'as un mec enfin il est très il y a un gouverneur et tant qu'il y a, et s'il y a pas de gouverneur c'est la merde.
Ça me rappelle un projet de build ça. Bon bref. mais le problème c'est de trouver la masse. Il y a ouais. plein de projets open source. Ouais. Le mec, il est tout seul, voire ils sont deux. Voilà.
Jekyll, il y a des, enfin, il devait y avoir des milliers de forks, quoi. Donc les gens qui ont travaillé un peu dessus, il y en a plein.
Mais est-ce qu'il y a une communauté? Parce que c'est toujours le problème, c'est le problème d'aujourd'hui de l'open source.
Il y a une grosse communauté d'utilisateurs.
Voilà, c'est ça. C'est qu'on se retrouve avec des grosses communautés de forkers. Mais après, est-ce que les gens sont capables de bosser ensemble, de faire avancer le projet? C'est un peu ça qui a changé ces dernières années dans le monde open source, c'est qu'avec ces micro-projets qu'on retrouve à droite à gauche, où il y a effectivement très peu de committeurs, 2-3 committeurs, mais alors derrière effectivement des tonnes de pull requests, ouais, mais demain effectivement ces gars-là arrêtent, bah, est-ce qu'ils vont réussir à recréer une communauté qui va faire vivre le projet et non pas un mec qui va, une fois de plus, proposer ses 3 patchs et puis c'est tout dans le long terme aussi, hein, c'est un peu aussi ce qu'on aujourd'hui on reproche beaucoup de choses à Apache, la fondation ou même les Eclipse, etc. Ils ont beau avoir leur travers, bah eux au moins ils essayent par contre de faire en sorte que les projets tiennent sur le long terme, que les communautés soient actives, etc., etc. Est-ce qu'ils y arrivent ou pas, c'est un autre problème. Mais au moins ils ont cette volonté. Clairement sur des projets hostés chez GitHub et autres, on n'a aucune visibilité ou très peu de visibilité là-dessus.
Ouais. Sinon, sur un truc un peu plus léger, il y a Windows XP, donc qui n'est plus supporté, à part si vous payez très très cher et dans des cas très précis. Et donc, il y a un résumé de l'histoire de l'image. Vous vous rappelez le fond d'écran XP, cette espèce de double colline avec un ciel bleu superbe, etc. Et donc, moi, j'étais persuadé que le mec, il avait utilisé une technique qui s'appelle HDR, donc High Dynamic Range, qui est en gros la composition de 3 ou plus photos qui sont prises en sous-exposition, exposition médium, sur-exposition, pour donner des couleurs très très flashy qui sont en gros ce que l'œil fait automatiquement, mais qu'une caméra va pas pouvoir faire, en tout cas en prenant une seule photo. Et en fait, pas du tout, c'est une vraie photo qui a pas été retouchée, et donc c'est l'histoire de ce photographe qui explique comment il a pris cette photo, comment à un moment quelqu'un de Microsoft est venu et lui a dit bah on l'achète, envoyez-nous toutes les copies, que DHL a pas voulu l'envoyer parce que vu le prix de la photo ça il voulait pas l'assurer, du coup qu'ils lui ont payé un billet d'avion ou un billet de train pour aller donner les photos. Enfin, il y a plein de trucs marrants là-dessus pour une image qu'on aime Windows ou pas, on s'en rappelle forcément. Voilà, sinon sur les outils, il y a un article intéressant sur déjà il y a IntelliJ 13. Point, je sais pas quoi point 1 qui est sorti, donc mettez à jour. Et sinon il y a quelqu'un qui explique comment sont faites les inspections IntelliJ, que c'est pas juste l'analyse simple, et donc il zoome dans le code. Donc si ça vous intéresse ce genre de choses, vous pouvez aller voir l'article. Sinon, il y a aussi Dan de ASCII Doctor qui a rajouté le support EPUB 3. Alors pour l'instant, c'est dans Master, mais ça sera dans une release de ASCII Doctor dans pas longtemps. Et ça, c'est cool parce que c'est vrai que EPUB 3, donc qui est le truc qui est supporté par iBooks, en gros tout le monde sauf le Kindle. Il y a aussi le support de Mobi, hein, qui est dans ASCII Doctor avec ce travail-là. Ben ça, on va peut-être pouvoir faire des documentations qui ressortent bien en EPUB 3 et abandonner PDF pour à sa belle mort, ce qui serait vraiment super.
Waouh.
enfin mon livre, je vais pouvoir le faire dans une version qui fonctionne. Pour l'instant, j'avoue que j'ai un peu laissé tomber celui avec Nicolas qu'on a open sourcé. C'est vrai que générer les PDF, les e-pub, les... non, je crois que, non, le PDF, j'ai des, non, le PDF doit marcher à peu près, l'e-pub, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Je crois qu'il me manque des images. Mais c'est vrai que
l'e-pub en plus, des fois c'est moche, ou alors, bah, les images elles sont trop grandes.
Ouais, c'est ça, c'est
machin.
Pas simple.
C'est un peu comme le PDF d'ailleurs.
Trouver le bon compromis si on veut que le, que ça donne un rendu potable en HTML, en PDF, en e-pub. Ouais, franchement, c'est quand même un peu galère.
Ouais. Bon, on va visiblement perdre bientôt Antonio et.
Bah oui. Je dois y aller car la perceuse derrière moi fait rage et mon client m'attend. Je vous fais des bisous.
Ça marche, bah on va faire les mains dans le cambouis avec Arnaud. De toute façon, on a failli faire l'épisode à deux, donc voilà. On va juste finir à deux. Merci à toi et Vincent. Bah tu nous dis quand tu t'en vas et puis on te fera un coucou.
Ok.
Alors les mains dans le cambouis, on va inverser. Je vais d'abord parler de mon truc geek pour te laisser te chauffer, Arnaud, parce que ça va être un peu plus compliqué que le mien.
Il est gentil.
Donc Git, vous savez, on peut faire plein de trucs, revenir en arrière, changer les commits, etc. Notamment les squasher, c'est-à-dire faire deux commits en un seul parce qu'il y avait plein de micro changements qu'on aimerait rendre un peu plus d'un peu plus gros niveau, haut niveau. Et un truc que j'avais jamais vraiment réussi à faire, c'est découper un commit en deux, parce que je m'étais toujours dit ah c'est difficile, etc. Et pourtant je sais rajouter quand je fais des changements de mon code, je sais committer qu'une partie de ces changements-là, même jusqu'à la ligne précise dans une partie de, en gros du fichier dans un document. Mais j'avais jamais réussi à revenir en arrière et découper un commit en deux. Et donc bah j'ai fait un blog là-dessus. Donc je vous recommande à le faire pour très rapide. C'est vous faites un git rebase-i du l'endroit d'où vous voulez repartir. Vous arrivez jusqu'au commit qui va bien, donc vous le marquez comme en édition. Ensuite, vous faites un git reset head de -1. Ça vous revient en arrière. Il met tous les changements dans l'environnement de travail. Je sais plus si c'est staging ou l'environnement de travail en tant que tel. Ensuite, vous rajoutez exactement ce que vous voulez, y compris des morceaux de ligne ou des choses comme ça. Vous faites un commit. Vous rajoutez les choses que vous voulez mettre dans le deuxième commit. Et ensuite, vous commitez encore. Et ensuite, vous faites git rebase continue et vous avancez. Donc, c'est expliqué un peu mieux dans le blog parce qu'on a, donc, il y a le résumé et après un petit détail des opérations. Mais, bah, c'est intéressant de rajouter une corde à son arc et de se dire, bah, voilà, ça, maintenant, je sais faire, et si j'ai un problème, je peux revenir en fait, je fais mon blog pour moi, hein, parce que je veux pouvoir relire ma doc pour moi, en gros. Mais je partage. Et là, on va parler on va mettre l'autre main dans le cambouis, et là, côté screen, des process qu'on a lancés, et on se dit, merde, si jamais la connexion coupe, je suis dans la grosse panique.
C'est ça, ça arrive.
Comment je peux faire?
Alors, ça, c'est un blog post, là, qui était passé il y a quelques jours. Et effectivement, je connaissais pas l'astuce, j'ai testé, et elle marche plutôt bien. Et bon, alors déjà, ceux qui connaissent Screen, bon, j'espère tout le monde, Screen, c'est quand vous êtes sur Linux, ça vous permet d'avoir un pseudo-environnement virtuel qui va capturer les entrées, les sorties, etc. Et ça va vous permettre, dans une session unique shell, par exemple, d'avoir X environnement virtuel, et donc bah, derrière, lancer des process en parallèle, de suivre les différentes consoles, basculer entre les environnements d'exécution, etc. Donc voilà. Donc
c'est un peu comme les tables de terminal, sauf que c'est littéralement une commande qui fait ça.
Et là, c'est une commande. Et l'avantage, c'est que ça reste, c'est un processus qui va tourner genre, sur votre compte, sur une machine distante par exemple, et donc ça va vous permettre à tout moment, vous allez pouvoir vous déconnecter, vous reconnecter dessus, et donc vous lancez un grand process du boulot, vous voulez vérifier chez vous le soir que ça s'est bien terminé, bah vous allez vous reconnecter sur la session qui était au boulot, et revoir la fin des logs, etc. Donc ça, c'est la commande screen, donc là-dedans, il y a plein de commandes, des contrôles et plein de raccourcis pour gérer vos bascules entre les process, etc. Et là, donc, l'article de blog là, qu'on a lié là sur les show notes, c'est pour vous expliquer sur, bah, ça arrive, je pense que c'est arrivé quand même à beaucoup de gens, c'est je lance un truc qui est trop long, c'est l'heure de partir le soir ou j'ai autre chose à faire, ou je veux pouvoir mettre ma machine en veille et je sais que ma session SSH va être coupée, et donc bah, je voudrais quand même pouvoir voir ce qui se passe à la fin des logs et de la session qui tourne. Donc bah, là, vous allez utiliser donc plusieurs commandes, enfin trois commandes en gros. Vous allez mettre votre process en pause, Donc là, avec un background, enfin avec un contrôle Z et vous pouvez le mettre en background, donc vous le lancez avec.
Et parce que si je fais contrôle Z en général dans mes bash, ça les arrête. C'est ce que je fais quand je veux vraiment arrêter complètement.
Voilà, à partir qu'il est en quand il est en arrêt, t'as le choix, c'est soit tu tapes background pour le lancer en fond d'écran, en fond de tâche, comme si t'avais lancé le process avec le E. Soit tu fais FG, il revient en process prioritaire. Ah,
donc en fait, il est arrêté, il est en mode hibernation et soit éventuellement il va être tué parce qu'on va passer à autre chose, soit tu peux le faire revivre en fait.
Tu peux le faire revivre, le mettre en background, c'est tu effectivement tu vas le remettre sans l'attacher à ta console actuelle, donc il va pouvoir continuer à s'exécuter dans un environnement détaché. Si tu le remets en foreground, il reprend ta console actuelle, il reprend tes input output actuels, donc dans ce cas-là, tu reviens sur l'exécution en cours. Et tant qu'il est en contrôle Z, bah effectivement, il est en standby, dans un état d'attente. Tu peux potentiellement en avoir plusieurs, autant que tu veux d'ailleurs dans standby si je me trompe pas, puisqu'après tu peux appeler plusieurs fois la commande background et tu peux même, je crois, lui passer un PID, il me semble. Voilà. Donc le truc, donc c'est t'arrêtes ton process, tu fais un CTRL Z, ça te l'arrête, tu le mets en background, tu le mets en fond de tâche. Mais le problème, c'est que toi, tu vas vouloir derrière être sûr que quand tu vas te déconnecter de ta session SSH, par exemple, bah ça va pas tuer ce process hein, qui lui tourne sur la machine, et surtout que tu vas pouvoir récupérer les IO, les input-output du process pour voir les fameuses logs qui sont en train de s'exécuter, en imaginant que t'as pas tes logs, par exemple, dans un fichier dédié. Donc là, à ce moment-là, ouais, tu vas utiliser deux fonctions. T'en as une, c'est une fonction bash, donc là, ça s'appelle disown. Donc là, je la connaissais pas du tout, celle-là, qui va te permettre, en fait, de détacher le process, justement, de son parent actuel. Donc si t'as lancé ton process depuis un shell, depuis une session SSH remote, etc., le fait que, quand tu vas te déconnecter, la session shell va mourir, va s'arrêter, ça ne tuera pas le process enfant qui est le process que tu as aujourd'hui lancé en background maintenant. Donc là, tu vas faire disown et le nom de ta commande, par exemple, qui est en cours d'exécution, et ça va t'arrêter, ça va te détacher ce lien entre le process parent et le process enfant.
J'imagine que tu peux faire un disown du PID si jamais t'as lancé plusieurs fois la même commande.
Oui, je pense, parce que là, dans l'exemple, il nous donne le machin, j'ai pas regardé, mais je pense que tu peux le disown, c'est une commande bash, mais tu peux le lancer, enfin bash ou shell, tu peux le lancer sur un PID ou comme sur un nom de commande.
Alors PID, c'est process ID.
Oui, process ID, oui. Donc,
sous Windows,
Du coup, disown, ça enlève le parent, il n'y a plus de parent, on devient un process zombie, c'est ça?
Non, ça devient, tu sais, oui, enfin, c'est pas un process zombie, ça devient celui qui a il se retrouve avec le process init, je crois, en parent, si tu fais pas.
Le père de tout le monde.
Le père de tout le monde, ouais.
Ouais.
Par défaut, c'est un. Ouais, et donc à ce niveau-là, quand tu vas faire ça, donc là il est détaché, tu vas vouloir ce que tu veux, c'est le relancer, c'est le rattacher à un screen pour pouvoir justement récupérer tes input output et potentiellement réinteragir avec lui et surtout lire sa console. Donc là tu vas lancer ta session screen que tu avais oublié de lancer comme un boulet avant de lancer ton process de base. Donc tu lances ton screen, tu rentres dans ton environnement screen classique. Donc là je joue pas ces détails, mais bon, par défaut, ça te donne un shell qui est dans cet environnement cocon là, dans ce screen. Et là, t'as alors une commande. Donc là, par contre, c'est un projet. C'est des trucs qui ne sont pas natifs. Donc, faut récupérer. C'est soit reti, soit reptir. R-E-P-T-Y-R. Et là, celui-là, tu vas lui passer le PID de la commande et ça va rattacher justement un process donné, ces IO, à ton shell courant, à ta session en cours. Donc là, celui-là, tu vas faire ton reptir et ton PID, et là, ça va te le rattacher. Donc tout d'un coup, tu vas retrouver dans ton screen les logs, et potentiellement, si tu as besoin de faire des saisies des inputs, bah ça, tu pourras rentrer tes inputs dans ton screen en cours. Et lui, par contre, le screen, à ce moment-là, tu peux le quitter, revenir plus tard dessus, le rattacher comme tu veux sur ton process. Donc c'est comme ça que tu peux te sauver facilement avec ces commandes-là. Tu vas pouvoir, si tu t'es trompé et lancer un grand truc qui est bien long, avec ces quelques commandes, tu vas pouvoir la rattacher dans un screen que t'as oublié de lancer et le récupérer plus tard. C'est pas très clair. Si c'est pas très clair, vous avez un article qui explique bien la chose et ça marche. Effectivement, j'ai fait les tests, ça marche.
Moi, ce que je n'avais pas compris, c'est que quand tu fais CTRL Z, le truc, il n'a pas disparu.
Non, il n'a pas disparu. CTRL Z, c'est tu as suspendu. Donc, il est en standby, ouais. ton process.
Et si tu as un bash qui appelle un autre bash ou une commande rsync, quand tu fais un CTRL Z, c'est la commande qui est tout en bas ou il...
C'est celle.
Parce que quand tu fais un CTRL C, ça a tendance à continuer le bash après, tu vois. Genre, t'as un bash qui appelle un 10 rsync.
Ouais, ça dépend comment ils sont liés, mais effectivement, si tu fais un CTRL C sur un bash, potentiellement, si la commande en dessous, ça dépend comment elle est lancée, mais potentiellement, elle va pouvoir tourner, toute seule. Ça dépend, justement, si, je crois qu'il y a des astuces pour justement pouvoir lancer ou pas la rattacher aux parents ou pas. Et donc avoir cet effet cascade quand tu kills le bash par, mais par défaut, je pense qu'il kill les enfants, il me semble, par défaut. Normalement. Et donc là, bah, si tu fais la pause, normalement, ça pose, ça met en pause tout ce qui est en dessous, hein. Toute l'arborescence de process, oui.
Ok, bah, écoute, merci pour, là, c'est un vrai retour dans le marrant cambouis des familles, là. bon, on va passer à. Alors, on n'a pas d'outil d'épisode, je pense. Je sais pas si vous avez un truc qui vous vient en tête, mais.
Non, pas plus. Ok.
Voilà. Conférence. Donc, il y a le Etalab, dont on a vu pas mal de choses sur Twitter, qui est la mission chargée de l'ouverture des données publiques. Donc, c'est le fameux Open Data français. Donc ils ont fait une conférence qui est passée, si je me souviens bien, oui c'était le 24 avril, donc je pense qu'ils en feront d'autres. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui ont été enregistrées, des choses comme ça, donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. DevOps for Kids a fait un manifesto qui ressemble à moitié une licence d'utilisation de la marque, à moitié un manifesto. Je sais pas si vous avez eu le temps de le lire et si vous avez des commentaires dessus.
Non, je l'avais pas vu, mais
Moi, j'étais un petit peu surpris, parce que c'est effectivement à moitié une licence d'utilisation, en fait.
D'accord.
Parce qu'un manifesto. Un manifesto, c'est genre, nous, on veut faire des choses comme ci, comme ça, ouais. etc. Et là, c'est, voilà.
Ça ordonne certaines choses en même temps, enfin, c'est, ouais.
Ouais. Donc, bon, je pense que comme on n'a pas vraiment zoomé là-dessus, quand un jour on aura un DevOps for Kidien,
mais oui, on pourra lui poser inviter la effectivement des DevOps for Kidien sur le sujet. Mais c'est vrai que là, j'ai vu qu'il y avait un nouvel événement qui était, c'était en Amérique du Sud là ce week-end, je crois. Mais c'est vrai que ça marche bien. Il y a de plus en plus d'événements DevOps for Kids, et c'est vrai que voilà, faut qu'eux ils gèrent aussi un peu le contenu, la marque, que ça parte pas dans tous les sens, et qu'ils gèrent un peu cette image qu'ils ont. Donc effectivement, ça avait été démarré en Belgique par Stéphane et les équipes du Bijog, Tacha, Daniel, etc. Et derrière, effectivement, aujourd'hui, il y a des forks, on va dire, des équipes qui se sont créées un petit peu partout en France et donc maintenant dans d'autres pays, enfin Angleterre et d'autres à droite à gauche. Donc
US, ouais. Ouais. Quand est-ce qu'il y aura DevOps for Granny?
Ce serait pas mal, ça. Ça serait pas mal pour envoyer nos parents.
Ouais, ça va être à nous de le faire, hein. Ça va être bientôt nous.
Ouais, en fait, c'est ça.
C'est clair. Voilà. Sinon, Breadscamp, je crois que c'est plein, c'est ça?
Il me semble ou quasi,
en
hein.
En tout cas, c'est bientôt.
Il me semble, hein. Oui, c'est quasi plein ou, ouais. Donc, dépêchez-vous si vous voulez vous inscrire. Et le Call for Paper est encore ouvert, mais pour pas longtemps non plus.
Comme ils peuvent avoir ouvert alors que là.
Hein?
Tac, tac, tac.
Bah, ils font comme DevOx. Les gens s'inscrivent avant même d'avoir le programme.
Ouais, c'est ça.
Mais je pense.
Donc, 21, 22, 23 mai à Rennes.
Voilà. Et si le CFP est peut-être fini. Ils ont peut-être fermé le CFP. Si, je crois qu'ils ont dû fermer enfin.
Bref. Voilà. Il y a le groupe Meetup Duchesse France qui s'est lancé il y a quelques temps. C'est une page Google Plus ou je sais pas quoi. C'est une page Meetup évidemment. Et en tout coup, ils expliquent voilà ce qu'ils vont faire là les prochaines fois et voilà le travail autour des duchesses. On en a parlé un petit peu sur le peu de propositions de présentation à DevOx venant de femmes et donc voilà. Mais il y a moyen de faire des choses pour l'année prochaine. Donc si vous êtes plutôt de tendance femme et que vous voulez vous investir, allez les voir, Duchesse France, elles seront très heureuses de vous accueillir. Est-ce qu'il reste un truc à dire? Oui, il y a évidemment Grelsconf en Europe en début juin, donc il y aura sûrement Guillaume, hein, je pense.
Oh, on va pas en parler, il est pas là.
Voilà. Il y a Mixit qui est maintenant, mais voilà, c'est trop tard pour s'inscrire, là, je pense, ça va être compliqué. Voilà, vous voulez rajouter un petit truc ou c'est bon là, on a fait assez long quand même, cela dit.
On a faim.
Ouais, aussi. Bon bah merci à Vincent finalement qui est resté jusqu'au bout. Silence, un support silencieux mais un support quand même.
Bah, merci à tous.
Voilà. Bon ben ouais, merci à tout le monde et puis à la prochaine. Et ciao les gars.
À bientôt.
Merci, salut.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.